Florent Varac, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Il nous vient de Lyon, cette merveilleuse ville. Alors, Florent était bercé dès son enfance dans une famille passionnée de spiritualité orientale. Et c'est grâce à un ami de classe terminale que Florent sera conduit à l'Évangile. Alors, il a fait des études de commerce aux États-Unis, à l'université de Hartford, tout en participant à différentes formations bibliques. Et plus tard, une jeune église de Lyon l'embauche pour un stage réussi. Et je crois qu'il y est toujours. 2003, il termine une maîtrise en théologie et il enseigne également à l'Institut biblique de Genève. Marié, père de 3 enfants, je lui laisse le loisir de raconter les petites gags comiques que lui font ses enfants. Il était également l'auteur de plusieurs livres et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré lors d'un tournage télévision dans l'émission The Mag à Belfort. Alors, côté loisirs, Florent Varac, en général, il roule en moto. Aujourd'hui, il n'est pas venu en moto. Je trouve ça toujours très marrant, c'est très chouette. Mais tu braves les vents en ULM. Vous savez ce que c'est, les ULM? Il va vous raconter ça aussi. Alors, je ne sais pas aujourd'hui s'il est venu de Lyon en ULM en bravant les vents, mais je sais une chose, c'est que sa réflexion va apporter une tempête spirituelle dans une lecture nouvelle de l'Ecclésiaste. Je lui cède la parole.
Merci. Alors, je suis très heureux d'être des vôtres à l'occasion de cette convention. Je suis assez impressionné que l'on m'ait invité comme ceci pour le 80e anniversaire de cette convention. Il y a quelques années, je prêchais dans une grande église où le pasteur principal était en déplacement. Et après ma prédication, le pasteur second est venu prier ainsi. « Seigneur, ramène-nous notre pasteur afin que nous soyons bien enseignés de nouveau. » Alors, je ne sais pas si c'était pertinent de me faire venir, mais en tout cas, je suis heureux d'être là. Un petit peu terrorisé à l'idée de faire suite à John Glass. Je crois que c'est lui qui était l'orateur l'année dernière, n'est-ce pas? Et John est pour moi l'un des plus grands prédicateurs francophones du moment, un homme de Dieu que je respecte grandement. Et je sais que vous avez été encouragé, béni par son ministère. Alors, on va... Donc, je suis pasteur d'une église depuis une vingtaine d'années, la même église. Il semble que... Un petit souci pour... C'est bon, ça devrait venir? D'accord. Je suis pasteur depuis 20 ans de la même église, donc ils sont très contents que je puisse me déplacer de temps en temps pour renouveler un petit peu ce qui se passe là-bas. Je suis donc marié depuis 23 ans, je crois. Mon épouse et nos 3 enfants, 2 se sont mariés en 6 mois. Donc la 3e a interdiction de parler à un garçon. Il y a des pères de filles ici. Est-ce qu'il y a des pères qui ont des filles? Vous savez ce qu'il faut dire hein, quand il y a un garçon qui rôde un petit peu trop près de votre fille. Vous prenez le garçon entre 4 yeux et vous lui demandez « Est-ce que vraiment tu veux passer du temps avec ma fille ?» C'est ça que je comprends. Je vais te dire un truc, je te le dirai qu'une fois. Ça ne m'ennuie pas de retourner en prison. Et c'est un petit peu là le problème. Je dis ça parce qu'il faut que les pères ils protègent un peu leurs filles. Et puis les... Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais... C'est un peu le problème, c'est que c'est extraordinaire les occasions de vie, mais parfois pas. Et même dans les choses les plus extraordinaires que nous connaissons, les choses changent, n'est-ce pas? Nous nous sommes mariés très vite, ces enfants sont venus et ils repartent, ils ne sont plus là, ils vivent leur vie. Certains d'entre nous avons vécu des choses difficiles peut-être ou des situations qui sont douloureuses. Et puis la vie n'est jamais vraiment stable. Alors tout au long de ce week-end, on va parler d'une certaine manière de voir la vie que Dieu a conduit dans le livre de l'Ecclésiaste. Je suis conscient qu'on n'abordera pas toutes les questions de la vie, mais on va regarder au travers du prisme de ce livre de l'Ecclésiaste. Je crois que nous, évangéliques, savons ce qu'est la foi, mais nous n'avons pas toujours développé un certain regard sur la vie. Je trouve que l'Ecclésiaste est un livre qui éclaire, illumine certaines parties de l'existence. Je suppose que vous serez d'accord avec moi que il y a un côté éphémère, fugace, difficile, frustrant de l'existence. Et même si nous arborons dimanche après dimanche un beau sourire évangélique, parce que nous sommes sauvés, parce que Christ nous prépare une place, parce que toutes les bénédictions sont en Christ, disponibles, accessibles en nous, il faut reconnaître que parfois il faut ramer, galérer, et que c'est difficile, à moins que, bien sûr, en Belgique, vous soyez épargné de ces situations. Bon, peut-être alors. La vie est troublante. Woody Allen dit ceci. D'autres ont eu des existences plus épanouissantes que la mienne. Mais au vu de ce qui est humainement possible, j'ai eu une belle vie, je suis en bonne santé globalement, j'ai eu du succès, des enfants, des amours, sur fond d'existence intrinsèquement tragique. Une seule chose est sûre, on va tous mourir. Et il ajoute, les croyants sont souvent plus heureux que moi, je suis ballotté par mes peurs et mes angoisses, mais je ne peux pas m'empêcher de les trouver stupides. Suivre les recommandations d'un prêtre ou d'un rabbin est parfaitement ridicule à mes yeux. Voilà le dilemme. Vie difficile, même dans les bonheurs, et puis, tiens, ceux qui croient ont peut-être quelque chose de plus, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Renaud, le chanteur, parle de sa vie avec franchise. Il dit « J'ai constamment le sentiment d'être persécuté, suivi, écouté, espionné, sur mon mail comme sur mon portable, par des gens qui me veulent du mal. J'ai des paranoïas très précises, j'ai peur de mourir aussi. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est une maladie, je culpabilise de vivre aussi heureux dans ce monde de malheur, de désespoir, de violence, de terrorisme, de banditisme. » Alors on fait quoi ? On fait quoi devant cette existence si fragile, si difficile, dont même les gens les plus aboutis, les gens qui ont le plus de succès, disent que ça passe pas. Alors Stromae, dont vous voyez l'image ici, dit « Alors on danse ». Vous connaissez cette chanson ? Bon, ça va dépendre des âges, hein, certaines illustrations. Je suis désolé, je ne fais pas de jugement de valeur ici, n'est-ce pas ? Mais dans un de ses clips, il dit « Qui dit étude, dit travail, qui dit taf, te dit thune, qui dit argent, dit dépense, qui dit... crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. » Et puis dans le refrain de sa chanson, il y a « Alors on danse, alors on danse, alors on danse. » Carmélia dit autre chose. « Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, 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 je ne veux pas l'oublier. Non, 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 je ne veux pas m'en passer. Je veux juste aller mal. Et il n'y a pas de mal à ça. » Traîner, manger que dalle, écouter Barbara, peut-être il reviendra. Et face à l'angoisse de l'existence, face à la difficulté de la vie, face à l'échéance absolument certaine de la mort, il y en a qui disent qu'il faut danser, 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 oublier les situations de vie en les masquant de danse. D'autres proposent plutôt de se retirer, de se replier sur soi. Nous allons parcourir tout au long de ces deux jours quatre chapitres de l'Ecclésiaste dont le but est de dépeindre la vie dans toute sa splendeur humaine et toute sa difficulté aussi, afin d'en tirer des applications concrètes et des orientations pour pouvoir vivre une vie sous le soleil, sous la difficulté. C'est vraiment le sens de cette expression « sous le soleil » que nous allons retrouver. Et nous l'abordons au travers ce matin du chapitre 1, les versets 1 à 11. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à le lire avec moi. Je ferai trois remarques. Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 11. Et je pense que fondamentalement en Occident, où la vie est plutôt facile, si vous avez voyagé dans des pays en voie de développement ou dans des pays en situation de détresse, quand on rentre, on se dit, mais de quoi est-ce qu'on se plaint, n'est-ce pas ? Mais je pense que justement, dans les pays qui sont comme les nôtres, on a besoin d'entendre un certain regard sur la vie afin de la construire différemment. Ont besoin d'intégrer une certaine perspective de la frustration humaine. Ecclésiaste chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Voici, ceci, c'est nouveau » Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Premier point que je souhaite développer avec ce que nous disent les premiers versets, c'est que la vie est frustration. Et l'homme qui le souligne est un pro de la vie et un pro de la frustration. Ecclésiaste, c'est son titre, en hébreu c'est Kohelet, c'est quelqu'un qui parle en assemblée, de Kaal, assemblée. C'est un enseignant, un prédicateur, c'est celui qui rassemble le peuple pour discuter ou qui rassemble des maximes à vivre. La lecture laisse penser qu'il s'agit de Salomon, mais des livres entiers suggèrent que c'est plutôt une sorte de roman fictif qui prend Salomon comme caractère imaginaire. C'est un peu comme si moi je voulais écrire sur la guerre de Napoléon et je me présentais comme Napoléon. Toutefois, personnellement, je crois plutôt que c'est vraiment Salomon qui a écrit cet ouvrage. Et que Salomon est la personne capable de nous dire ce qu'est la vie et ce qu'elle n'est pas, justement parce qu'il l'a pas mal expérimenté. Je pense que Salomon a écrit le Cantique des Cantiques, ce merveilleux chant d'amour, alors qu'il était jeune, probablement alors qu'il vivait la seule romance véritable de sa vie. Et puis vers un âge mûr, il écrit des proverbes avec des conseils qui sont vraiment donnés à des gens qui sont déjà des adultes, même s'il les appelle ses enfants. Il parle de sexualité, il parle de business, enfin des choses qui ne concernent moins un petit enfant. Et à la fin de sa vie, il écrit l'Ecclésiaste, où il porte un regard doux amer sur l'existence, et il en montre les limites avec tout ce qu'il a accompli. Vous savez son histoire, hein ? Il est né dans une famille particulière, son père est le roi d'Israël, au sommet de son succès, il voit une femme nue, l'invite chez lui, couche avec elle, un enfant naît de cette union, zut, il voulait garder ça secret, donc il fait tuer le mari pour essayer de garder ça bien, bien couvert, ça ne marche pas, Nathan le prophète le confronte, l'enfant va mourir. Mais un amour subsiste entre Bathsheba et David, qui va enfanter un autre enfant, c'est Salomon. Il porte un nom qui veut dire pacifique, parce que le règne du successeur de David le serait. Il devient roi de Jérusalem à 20 ans, autour de 970 avant Jésus-Christ. Et vous savez quoi ? La descente commence. Il était déjà marié à une ammonite nommée Naama, mais quand il accède au trône, il épouse celle qui deviendra une reine, la fille du pharaon d'Égypte. La bigamie, c'est pas une bonne idée, juste au cas où vous vous poseriez les questions. C'est pas une bonne idée. Et une tendance qui va faire que s'accentuer, puisque à la fin de sa vie, nous lisons qu'il avait un harem constitué de 700 femmes et 300 concubines. Je vois certains sourires, c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut vivre dans ce contexte-là ? 700 femmes, 300 concubines. C'est intéressant d'ailleurs que Salomon ne soit pas cité parmi les héros de la foi en Hébreux 11. Ce n'est pas quelqu'un dont il faut suivre l'exemple. Hein. Ce n'est pas quelqu'un dont on peut se dire « Ah, il a eu 700 femmes, 300 concubines, je peux, c'était Salomon. » Pas cela. Après son mariage, Dieu lui apparaît en rêve et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux et je te le donne. » 1 Roi 3:5. C'est incroyable comme question. Si Dieu venait vous voir et vous disait « Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. » Qu'est-ce que vous répondriez ? Je ne veux pas de réponse publique, ça pourrait être embarrassant. Certains diraient le loto, d'autres la santé, ou d'autres la résurrection d'un être aimé, ou bien le succès professionnel. Vous savez que c'est arrivé à un prophète de Marseille. Il y a eu un rêve où Dieu s'est présenté à lui et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? Je te le donnerai. » Et lui, il était passionné de moto. Alors il a dit « Écoute, ce que j'aimerais vraiment, c'est une autoroute qui va de Marseille à Honolulu, avec des lignes droites, des courbes, enfin vraiment le rêve du motard. » Dieu lui dit « Écoute, c'est possible, mais ça va vraiment puiser sur les ressources naturelles, ça va vraiment être un désastre écologique. Si tu veux vraiment, je le fais, mais c'est peut-être pas une bonne idée. » Alors il réfléchit, il dit « Ah oui, non, c'est... Ouais. Bon, alors je voudrais la paix dans le monde. » Dieu lui dit, c'est possible, mais la paix dans le monde, c'est le jour où je reviens. Donc ça veut dire plus d'évangélisation, plus de salut, plus personne n'a l'opportunité maintenant de venir à Christ et d'être sauvé. Alors, il dit non. Je voudrais comprendre ma femme. Et le lendemain, il se réveille, il y a une grande autoroute devant lui à Marseille. Bon. On va revenir aux préoccupations de Salomon. Mais ce qui est remarquable, c'est que Salomon répond... « Accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand ?» Et Dieu dit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu devant toi, avant toi, et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Et Salomon devient vraiment un homme sage. Il peut parler de sujets comme personne ne peut en parler. Et comme il a beaucoup fait d'erreurs dans sa vie, le livre de l'Ecclésiaste est un peu comme le livre qui nous permet d'avoir la foi en ce qu'il ne faut pas faire. Il n'est pas nécessaire de lécher le fond d'une poubelle pour savoir que ce n'est pas bon. Salomon l'a fait pour nous. Et il en parle. Et il souligne les éléments de l'existence. Et voilà que donc, à la fin de sa vie, après toute une vie de sagesse, pas toujours mise en pratique, bien sûr, mais après toute une vie de sagesse, voici la conclusion qu'il se donne. Vous êtes prêts? Ah, c'est très joli, hein, sans les caractères hébreux. Je voulais juste le lire en hébreu, mais finalement, ce serait une vantardise, une vanité, en fait. Et l'expression qui revient sur l'ensemble du livre, c'est « vanité des vanités ». Tout est vanité. On le trouve au début de ce livre et on le trouve à la fin de ce livre. Quand Salomon, à la fin de son existence, à la fin de son parcours, après avoir tout essayé, tout goûté, il dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Le terme « evel » en hébreu est un sens très concret qu'on retrouve sous le terme de « vapeur », de « buée », de « vent ». Il a un sens aussi figuré, imagé, qui s'appuie sur cette considération. Et il a un sens vital lié à la vie de déception, de dérisoire, d'illusoire, parfois de lamentable. Parole de vie traduit ainsi, « Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. » La Bible en français courant dit « De la fumée, tout n'est que fumée, tout part en fumée. » La NBS dit « futilité complète, tout n'est que futilité. » La vie est quelque chose d'une frustration universel. Vous ne trouvez pas? Tout ce qu'on bâtit se détruit. Tout ce qu'on prévoit ne se réalise pas, presque, sauf une convention. Rien de ce que l'on garde n'est garanti. Chateaubriand s'exclamait « Ô misère de nous, notre vie est si vaine qu'elle n'est qu'un reflet de notre mémoire. » Et les grands philosophes et poètes, notamment de période romantique, montrent combien la vie a semble-t-il aucun sens. Verset 3, que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Je suis pasteur donc d'une église, il y a 250-300 personnes, beaucoup beaucoup de jeunes, et c'est vraiment une église que j'aime beaucoup, et on est toujours réjoui quand il y a une personne âgée qui rentre, parce que justement on n'a pas de personnes âgées. Donc pour nous, c'est un cadeau, c'est du bonus. On essaye tout de suite de se précipiter pour les voir. Ça va, bienvenue, bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Enfin, maintenant, on commence à être ceux qui arrivons dans la génération qui sera la génération des personnes les plus âgées. Mais un jour, il y a une personne qui est arrivée dans notre église. C'était un célibataire, 80 et quelques années. Et il accompagnait sa sœur qui était membre de l'église et qui avait un petit souci de santé. Donc lui avait accepté de l'accompagner exceptionnellement parce qu'il ne voulait absolument rien savoir de la vie de l'église. Et de temps en temps, il venait quand même. Et je le voyais de loin et j'essayais, à la fin du culte, je me précipitais pour essayer de lui parler, parce que je voulais vraiment lui parler de Jésus-Christ, de la foi. Et il était toujours plus rapide. Je ne suis pas un grand sportif. Hein. Il était toujours plus rapide, il partait. En fait, il ne voulait pas vraiment discuter. Et un jour, j'ai réussi à le capter. Et je lui dis, « Monsieur, je suis tellement heureux de vous voir et de pouvoir discuter avec vous. Est-ce que vous ne voudriez pas qu'on regarde la Bible ensemble un jour ?» Il me dit, « Oh, vous êtes tellement occupé, il y a tellement de monde. » Manière de dire, ça ne m'intéresse pas. Et j'essayais vraiment de le convaincre qu'on puisse juste prendre un café ensemble. Et j'ai trouvé l'astuce, je lui dis, j'ai une idée. Vous m'offrez un café, je vous offre une étude biblique. Ça a marché. Il s'est senti dans une relation de redevable. Et puis je l'ai retrouvé donc autour d'un café. Il m'offrait un café, je suis amateur. Et je lui parlais de la Bible, je suis aussi amateur, tout allait bien. Et comme c'était un ancien pharmacien et qu'il avait toute sa tête, je lui dis, on va faire Romains ensemble. Romains 1. Romains 2, Romains 3, il me dit, c'est quand même drôlement culpabilisant, c'est drôlement fort tous ces textes que l'on lit, on parle de ce qu'il découvre et tout ça. Je dis, oui, mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à la fin. Romains 4, Romains 5, et il me dit, je crois que j'ai compris. Alors, je lui dis, quoi? Il me dit, je crois que j'ai compris ce qu'est l'Évangile. Et l'une des choses qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait de la peine à lire. Alors, je lui dis, vous inquiétez pas. Nous, on a des Bibles en grand caractère. Ça va marcher. Il m'a dit, oui, mais souvent les Bibles sont difficiles à comprendre. J'ai dit, oui, mais nous, on a des Bibles en grand caractère et en français courant illustrées. Il avait plus, il était vraiment, voilà. Et donc, dans la Bible grand caractère illustrée pour jeunes, il y avait quelqu'un qui était au pied de la croix avec un gros sac à dos. Et dit, c'est ça l'évangile. J'étais trop réjoui qu'il ait compris. Je dis, écoutez, si vous comprenez que dans ce sac-là, il y a nos péchés, et que la conversion, c'est le fait de pouvoir placer à la croix de Christ notre culpabilité, notre péché, parce que lui l'a prise, lui a porté notre jugement. Oui, vous avez compris l'évangile. Et il me regarde, petit sourire en coin, il me dit, il faudrait quand même que je me décide bientôt. Hein. Et je lui dis, allons, vous êtes dans la force de l'âge. Je suis parti donner des conférences en Nouvelle-Calédonie, je suis revenu, il était mort. Je dis, waouh, c'est sérieux la vie, c'est sérieux l'évangélisation. La seule chose qui me console, c'est que il est venu au culte ce dimanche-là et le personnel d'accueil m'a dit qu'il était rayonnant. Alors je veux croire que Dieu ne donne pas la compréhension de l'évangile à 83 et quelques années en disant « t'as compris maintenant ? Eh bien tant pis !» Je veux croire que Dieu dans son amour et dans sa bienveillance l'a aussi convaincu et lui a donné la grâce de croire. Mais ce n'est pas ça qui m'impressionne par rapport au verset 3. C'est que cet homme, célibataire, toute sa vie, sans aucun héritier, il a fallu s'occuper de son appartement. On a jeté des cartons de photos, on a jeté des livres, on a jeté plein de choses. Il ne restait rien de concret et de tangible d'une vie. Il ne restera rien de nos vies. Je viens de Lyon pour vous dire ça. C'est une bonne nouvelle. Job dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » La vie est frustration. Même le ministère est source de frustration. Fondamentalement, il n'y a qu'une chose qui demeure, on en parlera à la fin. Deuxième remarque, la vie est routine. Génération s'en va, génération revient, et la terre subsiste toujours. Les versets 4 à 7 nous parlent d'un cycle incessant. On commence la vie avec des couches, on finira avec des couches. On commence la vie sans dents, on en termine la vie, pardon, sans dents non plus. La question immédiate, c'est donc se poser pourquoi on les brosse entre les deux. Mais ça, c'est... J'ai visité le cimetière de Loyasse, qui est le cimetière le plus connu de la ville de Lyon. Et je me suis baladé pour voir ces gens qui étaient très connus en leur temps. Il y a un peintre, Adolphe Appian, savez-vous nommer une de ses toiles ? Pouvez-vous me dire ce que faisait Amédée Bonnet ? Il y a Nitzier Antelme Philippe, un occultiste qui a guéri, dit-on, des centaines de personnes. Vous savez quoi ? Tous ceux qu'il a guéris sont quand même morts. Il y a des nécropoles de militaires dont on ne se souvient plus les noms. Tous les actes de l'homme, des hommes restent. Tout continue, le cycle de la vie continue. Baudelaire écrit ce poème saisissant, « Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vapeureux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. » 3600 fois par heure, la seconde chuchote, souviens-toi. Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dit, je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, est au mémor, mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes mortelles folâtres sont des gangues qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Il termine, tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, ou l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, ou le repentir même, oh, la dernière auberge, où tout te dira, meurs, vieux lâche, il est trop tard. Avec le verset 5, Salomon observe la nature et il remarque l'incalculable fatigue de la routine. C'est beau un lever du soleil, mais 365 levers de soleil par an, c'est moins beau. Le vent se fait sentir, tiens, il vient du sud, ah, il vient du nord, ah oui, mais après il va revenir du sud. C'est frustrant, cette routine de l'existence. Rien de profondément satisfaisant. Et puis, la vie est également immobile. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. Verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a quoi ? Rien de nouveau sous le soleil. On se précipite pour obtenir le dernier CD d'une star, et puis on se précipite pour aller voir le dernier film aux effets spéciaux extraordinaires, on va voir Avatar. Puis quand on a vu Avatar, on voudra encore revoir un autre film. On a quelque chose qui fait que la vie semble non excitante. On cherche des passions qui, dès qu'on les vit, nous ont dépassionnés parce qu'il faut aller au-delà et plus loin. Rien de nouveau sous le soleil, voilà une formule qui est restée dans nos pensées. C'est vrai que depuis Salomon, il y a eu plusieurs améliorations. Vous allez reconnaître celle-ci, l'iPhone. Mais bien entendu, ce dont il est question ici n'est pas les avancées technologiques. Jacques Ellul remarque, soyons sérieux, quand le Qohélète, qui n'est pas un imbécile, écrit cela, il voit très bien que depuis 3000 ans, il y a eu du nouveau dans ce Proche-Orient où il vit. La roue, l'irrigation, l'agriculture, la navigation, la domestication des animaux, on n'a pas cessé de faire des progrès. Bien sûr, il le sait, des progrès pas aussi rapides que les nôtres, mais aussi fondamentaux pour l'avenir de l'homme. Et pourtant, il dit ce qu'il dit. C'est qu'assurément, il ne vise pas ses progrès. Il ne parle pas de science et de technique. Il ne parle pas d'instruments. Il parle de l'homme, comme le montre le verset 8 du chapitre 1. Un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité. Ça vous dit quelque chose ? Louis Thomas, en 1980, président de l'université de Harvard, dit « Vous pouvez marcher sur la Lune, mais il n'y a rien à faire là-bas, sinon regardez la Terre se lever. » Rien de nouveau sous le soleil. Nebuchadnezzar a tué des milliers d'hommes et de femmes par l'épée. Au Rwanda, des centaines de milliers d'hommes et de femmes sont morts à la machette. À Hiroshima, des centaines de milliers d'hommes sont morts d'une bombe atomique. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil ? Caïn a tué Abel. Tiens, un autre Evel, vapeur, buée passagère. Par jalousie pour la relation avec Dieu. D'autres lancent des croisades au nom de Dieu. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil ? David séduit une femme mariée, fait tuer son mari pour garantir un mariage rapide et couvrir la grossesse. Y a-t-il du nouveau sous le soleil ? Mes parents portaient des pantalons larges, dits pattes d'éléphant. J'ai porté des pantalons étroits. Devinez ce qui se portait en 2007. Un site écrivait « Oui, le pantalon pattes d'éléphant est très tendance en ce moment. » Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil ? Temps fuit, le souvenir fuit, la vie nous échappe. Des doigts, on n'a point souvenir du passé, ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite, dit le verset 11. On oublie tout, n'est-ce pas ? Ma belle-mère travaille en tant qu'infirmière, ou travaillait, en tant qu'infirmière dans un hôpital pour personnes âgées, notamment en situation d'Alzheimer. Et donc elle avait pas mal d'histoires amusantes à nous raconter sur cette situation, qui parfois est évidemment très très tragique. Elle me racontait une histoire qui l'avait touchée parce qu'il y avait cette femme qui, un jour, sortait de sa chambre en disant « J'ai 20 ans, j'ai 20 ans, j'ai 20 ans !» Alors l'infirmière lui disait « Non, vous... Enfin, » ma belle-mère donc lui disait « Vous n'avez pas 20 ans. »« Si, j'ai 20 ans !» Alors elle le conduisait devant un miroir. « Vous voyez, vous n'avez pas 20 ans. »« Oh, mais celui-ci, il ne marche pas. » On oublie, on oublie, on oublie. Ça va, vous tenez le coup ? C'est une logique assez pesante, mais je voudrais vous suggérer qu'elle est libératrice. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est terminer avec quelques points qui sont des points d'application de ce que ce texte nous enseigne. Des points d'application qui me semblent importants, parce que c'est là la vie sous le soleil. C'est d'ailleurs une expression technique, sous le soleil, parce que l'Ecclésiaste a choisi de la décrire non pas sous l'angle de Dieu, non pas sous l'angle de la foi. En fait, cela arrivera avec les deux derniers chapitres. Nous traiterons des deux derniers chapitres de l'Ecclésiaste demain après-midi. D'ailleurs, si vous avez des gens autour de vous qui seraient intéressés par des questions presque liées un peu au sens de la vie et à l'Évangile, ce serait une bonne occasion pour leur proposer de venir. J'espère que ce sera pertinent pour eux et que ça permettra d'orienter sur le regard de l'Évangile. Mais il commence à parler de façon si négative pour préparer le chemin à une solution qu'il envisage bien plus loin. Souvenez-vous, l'Ecclésiaste, c'est un livre qui conclut la vie de Salomon. La vie d'un homme qui a tout essayé, qui a beaucoup raté de choses, il a réussi d'autres, mais beaucoup raté de choses. Et à la fin de son chemin, il constate que là où il espérait trouver satisfaction, en fait, il n'a pas trouvé satisfaction. Quelle conclusion tirer de cette première partie de l'Ecclésiaste, le début de ce livre? La première chose qu'il faudrait relever, c'est rejeter le nihilisme. Vous savez que nous formons dans notre culture une culture qui a été marquée récemment par tout un tas de philosophes qui ne donnent aucun espoir à l'être humain. Les gens viennent de nulle part, vont nulle part, et en milieu, il faut essayer de trouver du sens à la vie. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait une consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et qu'il y a des jeunes qui sont prêts au suicide. Il n'y a aucun espoir dans l'existence. Et l'Ecclésiaste ne veut pas donner cette idée du nihilisme, du tout, du tout. Il y a 12 chapitres qui vont nous instruire que la vie a un sens, mais je ne veux pas donner tous les éléments du sens, on va le voir dans le troisième et quatrième message, ces notions du sens de la vie, et déjà un petit peu la prochaine fois. Il faut rejeter le nihilisme parce que justement, nous venons de quelque part, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a une espérance qui s'est ensuite manifestée en Jésus-Christ. Dieu donne du sens à la vie, il la colore. Et il faut dire à ceux qui nous entourent et qui sont marqués par le désespoir de la vie que leur observation est juste, mais que leur solution est fausse. En étudiant la question, j'ai été marqué par l'histoire de Léopold et Loeb, deux jeunes qui ont tué un garçon de 14 ans. Et c'était deux jeunes universitaires qui venaient de découvrir à l'université de Chicago la philosophie du nihilisme, qui avait que le néant comme ultime réalité, marqué par les philosophes français. Alors ils se sont dit, s'il n'y a que le néant comme ultime réalité, que l'on vive ou que l'on meure, ça n'a pas de sens. Donc ils se sont dit, que l'on tue quelqu'un ou qu'on ne tue pas quelqu'un, ça n'a pas d'importance. Donc ils ont pris un garçon de 14 ans et ils ont voulu réaliser le crime parfait, juste pour ça. Comme ça, pour le bonheur, pour le plaisir de faire quelque chose qui n'a pas de sens, mais qui de toute façon n'est ni bon ni mauvais, puisque la vie n'a pas de sens. Alors, ce serait une très mauvaise conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Deuxième remarque, c'est d'accueillir consciemment la frustration humaine. Je trouve que les évangéliques n'ont pas toujours une philosophie de la souffrance, une théologie même de la souffrance. Il y a parfois des personnes qui disent « Mais si nous sommes en Christ, tout doit marcher bien. Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient. » Et on se dit « L'abondance de la vie, ça peut être d'être riche, d'être en bonne santé, d'avoir un couple parfait, d'avoir des enfants parfaits, d'avoir un poisson rouge parfait, d'avoir deux voitures, un chien, etc. » Enfin, d'avoir un ensemble de vie. Et pourtant, la réalité de la vie sous le soleil, c'est que ce n'est pas ça. Le fait même, d'ailleurs, que ce soit quelque chose qui soit en tension doit nous encourager à regarder aux souffrances du temps présent comme étant une expression normale de l'existence. Je discutais récemment avec un ami qui a passé 17 ans en prison pour trafic de drogue. Et vous imaginez qu'avec 17 ans en prison pour trafic de drogue, il n'est pas simplement celui qui distribuait des petits sachets dans la rue. C'était un grand organisateur de ces trafics. Et il me disait que pendant tout son travail de trafiquant, c'était extraordinaire tout l'argent qu'il brassait. Aucun problème d'argent. En fait, c'était ça le problème. Il fallait écouler l'argent. Le problème d'un trafiquant de drogue, c'est que ça marche tellement bien que s'il se fait prendre avec de l'argent, il ne saura pas l'expliquer. Donc, il faut écouler l'argent au plus vite. Il a un problème inverse que la plupart d'entre nous. Mais à cause de ça, toute sa vie d'adolescent et sa vie d'adulte étaient d'une certaine forme de légèreté et de facilité. Il a été emprisonné, heureusement. Et en prison, il s'est converti, heureusement. Mais la grande difficulté a été, lorsqu'il est sorti de prison, la vie, la vraie, n'était pas facile. Et il s'est posé la question, comment ça se fait que maintenant que je suis chrétien, c'est si difficile de gagner mon pain? Avel, avalim, vanité des vanités. C'est vraiment le refrain que parfois il faut se dire. Je discute avec une femme en ce moment qui lutte avec un cancer depuis des années. Et parfois elle a le moral, et on peut le comprendre, à plat, n'est-ce pas? Vous pouvez l'imaginer. On a prié pour la guérison et je crois que Dieu peut guérir. Il se trouve que dans sa souveraineté, sa providence parfaite, Dieu a choisi de ne pas la guérir. Et elle me disait, mais comment ça se fait que je me sens si mal dans mes émotions? Ben, parce que tu es un être humain. Parce que en fait, il y a quelque chose qui, en nous, s'insurge contre les problèmes de la vie, parce que nous ne sommes pas faits à terme pour cette vie. La vie a ses frustrations. Les émotions ne fonctionnent pas correctement, le corps ne fonctionne pas correctement, la manière dont les choses s'orientent ne fonctionne pas correctement, et ça fait partie d'une des réalités qu'il faut accepter sous le soleil. Et je trouve que c'est libérateur de pouvoir se rendre auprès d'amis et de pouvoir dire « Non, en ce moment, ça ne va pas du tout dans ce domaine-là. J'ai besoin de ta prière, j'ai besoin de ton encouragement. » De pouvoir accueillir que l'existence ne fonctionne pas aussi bien que l'on aimerait. Troisième point, cultiver la joie du présent. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on l'aborde un petit peu plus tard parce que c'est largement souligné dans 7 refrains du livre de l'Ecclésiaste. Enfin, et dernier point, fixer sur ce qui est éternel. L'une des grandes leçons de l'Ecclésiaste nous vient à la fin du livre de l'Ecclésiaste. Fondamentalement, la frustration de l'existence, elle nous renseigne qu'on ne peut pas prendre racine dans cette existence en s'attendant à ce qu'elle comble l'ensemble de nos besoins. Thomas d'Aquin est le théologien et philosophe le plus important du catholicisme. Très marqué par la philosophie grecque, il a tenté d'unir cette discipline à la théologie. Il a écrit des milliers de pages et la légende a dit ceci de lui. Je ne sais pas si c'est vrai. Le 6 décembre 1273, à 49 ans, dans une extase, il voit le Christ. « Tu as bien écrit de moi, Thomas. Quelle récompense désires-tu ? » ? Rien d'autre que toi, Seigneur. » Ébloui par les vérités éternelles qu'il a contemplées, il cesse d'écrire et prie que la fin de sa vie suive vite celle de son œuvre. Même si cette légende est peut-être totalement fausse, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé. Voilà un homme qui travaillait des heures et des heures et des heures chaque jour sur la philosophie et la théologie. Et si vous avez lu un peu de Thomas d'Aquin, vous savez que c'est illisible. C'est très difficile à lire. Somnifère, c'est pas... Enfin bon, je ne suis pas philosophe et je ne suis pas théologien, donc peut-être c'est pour ça. Hein, mais il y a des choses extraordinaires dedans. Mais bref. Mais même dans cette œuvre de théologien, comparée à la connaissance de Christ et la vision de Christ, tout ça s'est mis à s'effondrer. Augustin s'est écrié « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » La frustration de l'existence doit nous encourager à regarder cette existence comme juste un élément de notre vie et qui doit pointer du doigt un élément beaucoup plus fondamental qui est de cultiver une relation avec Dieu qui, elle, va satisfaire et donner sens à la fois aux souffrances, à la fois aux frustrations, à la fois à notre engagement missionnaire, à la fois à notre témoignage, à la fois à notre engagement dans l'Église, parce que lui demeure éternellement. Et parce que notre union à lui demeure éternellement. Psaume 16, 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Lui est capable de donner un regard suffisant sur notre existence. Parce qu'il est souverain, parce qu'il a réglé le problème fondamental de nos cœurs, qui est celui de la culpabilité, par le sacrifice de Christ, parce qu'il nous prépare une place, parce qu'il nous accompagne. Il y a un concept que nous connaissons bien dans nos églises, et je termine bientôt. Il y a un concept que nous connaissons bien dans nos églises, qui est celui de la justification. Justification, c'est le trésor qui nous permet, nous qui sommes pécheurs, de nous tenir devant un Dieu trois fois saint. La justification nous vient de ce que Christ a fait à la croix, n'est-ce pas ? Je suppose que la plupart ici sont sensibles à cette extraordinaire nouvelle qui est celle de l'Évangile. Lorsque Dieu le Fils meurt à la croix, Dieu le Père prend l'ensemble de nos fautes, passées, présentes et à venir. Et Dieu, le Père, les place sur Dieu, le Fils, qui devient péché pour nous, de Corinthiens 5, 21. Jésus ne devient pas pécheur pour nous, il est saint, mais il devient péché pour nous. Et lorsqu'il est à la croix, Jésus, Dieu le Fils, paye, il accepte ce sacrifice de sa vie pour nous. Et Dieu le Père déverse toute sa juste colère sur Dieu le Fils pour mes mensonges, mes traîtrises, mes colères, mes adultères. Je le dis ainsi parce que Jésus dit, quand tu convoites une femme, c'est comme si tu as commis l'adultère. Hein. Et Jésus-Christ porte l'ensemble de mes fautes. Dieu le Père venge le péché sur son propre Fils qui accepte de l'être, en sorte que, lorsque l'expiation est terminée, tous les hommes et toutes les femmes, pécheurs qui reconnaissent leur besoin de grâce, de pardon, peuvent venir à lui dans la foi, dans la repentance, et recevoir la justification, c'est-à-dire le fait d'être déclaré juste devant lui. Toutefois, beaucoup d'entre nous fonctionnons un peu à l'image de ce que l'Ecclésiaste semble évoquer déjà au début. C'est que notre justification, c'est bien sûr ce que Christ a fait sur la croix, et notre activité, nos actions, nos œuvres, nos prétentions. Et dans ce premier regard sur la vie, l'Ecclésiaste nous montre qu'il n'y a aucune justification à l'existence même sous le soleil. Beaucoup de personnes courent après un succès professionnel pour pouvoir justifier leur existence. Des gens sont prêts à sauter de 40 000 mètres de haut pour, dit-il, marquer pour l'éternité leur passage sur terre. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Certaines personnes s'engagent dans le ministère pour être justifiées dans leur existence et dans leur regard à Dieu. La bonne nouvelle et qui nous vient de Jésus-Christ, c'est que nous venons à lui et notre existence ne se justifie que et tout simplement en lui, en Christ, avec Christ. Lorsque le sacrifice de Christ a été réalisé, le Père est devenu satisfait. C'est l'idée de la propitiation. Dieu est devenu propice. Et nous qui ressentons parfois durement le poids de la frustration de nos vies, n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit que de simplement nous confier en celui qui nous accepte en vertu de lui-même. En vertu de lui-même. Alors je peux cheminer ensuite. Je peux cheminer. Sachant que la vie ne va pas m'apporter tout ce que je voudrais. Ça va. Je peux l'accepter. Que je suis en Christ, solidement attaché en lui, et que lui est la seule et principale justification de mon existence. Je peux fixer ma vie sur lui, accueillir certains éléments de frustration de l'existence, certaines souffrances, comme étant non pas des éléments qui vont masquer, marquer ma relation avec Dieu, mais au contraire, avec Dieu, je peux, je l'espère, les dépasser. Un ami qui a souffert de nombreuses difficultés, notamment dans la maladie, a reçu la visite de quelqu'un qui lui disait « Mais est-ce que tu pries encore pour la guérison ?» C'est une question après 10 ans hein, de maladie. Et il a répondu, je trouve, avec beaucoup de sagesse, « Oula, j'ai largement dépassé ce cap. » Et je trouvais pertinent cette remarque par rapport à les éléments difficiles que l'on peut rencontrer dans l'existence et l'espérance forte et ferme que Dieu nous offre et que nous allons continuer de développer dans les temps qui viennent. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite juste à la prière pour clore. Seigneur mon Dieu, vanité des vanités, s'exclame ton serviteur. Et quelque part, je me réjouis parce que si la vie était si parfaite sur terre, j'aurais peut-être jamais recherché celui qui donne la vie éternelle. Je te remercie que nous n'avons pas besoin de prendre des racines si profondes que nous oublions de regarder à toi. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu comprennes notre existence avec les difficultés qu'elle recèle. Et je te prie pour que tu nous aides à fixer nos yeux sur ce qui est éternel et que tout au long de cette convention, nous puissions être renouvelés pour ne pas tomber dans certains des pièges dans lesquels Salomon est tombé. Et qu'au contraire, nous soyons dans tes mains, saisis d'une autre manière de voir la vie et l'existence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.